Retrouvez Dear Veil People tous les jeudis à midi 10 et 18h10 sur les ondes de Radio FM+, la radio où la différence nous rassemble. Dear Veil People, après ces premières émissions, vous avez pu remarquer que le handicap est un sujet des plus complexes. On a d'abord commencé avec un chapitre introductif avec la définition et les termes employés pour définir les personnes en situation de handicap. Ensuite, on a fait un petit tour d'horizon sur les différentes catégories de handicap existantes aujourd'hui. Maintenant, on a débuté un nouveau chapitre sur la santé. Après un épisode pour définir ce qu'est le médecin PR, on va partir sur un triptyque sur les différentes causes de handicap aujourd'hui, c'est-à-dire le handicap de naissance, les maladies dégénératives, ainsi que l'handicap après un accident. Aujourd'hui, nous allons commencer avec le handicap de naissance. Aujourd'hui, je reçois Frédéric Roux, bénévole à l'APF France Handicap depuis de nombreuses années. Comment allez-vous, Fred?
Je vais très bien, merci.
Est-ce que vous pouvez parler un petit peu de vous, vos projets, votre vie, puis ben, notamment, vous êtes là pour ça, votre handicap?
Avec plaisir. Donc, moi, je m'appelle Frédéric Roux. Et comme le disait Damien précédemment, je suis bénévole à France Handicap depuis, on va dire, 30 ans environ. Et je m'occupe d'un club informatique 4 fois par semaine.
Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Quel est ce système de ce club informatique? Il me semble qu'il est assez particulier.
Oui, alors tout à fait. Ce club informatique a pour but d'accueillir d'autres personnes en situation de handicap. On se base sur un système de cybercafé. Donc les gens s'inscrivent sur un planning. Ils viennent faire les activités qu'ils souhaitent. Et moi en particulier, je suis là pour leur donner un coup de main.
Alors, il me semble que vous n'êtes pas seul sur ce support informatique. Vous êtes en duo.
Effectivement, je travaille avec mon collègue Christian, qui est aussi en situation de handicap.
Alors justement, Fred, est-ce que vous pouvez nous dire quel est ce handicap? Comment se définit-il?
Alors moi, mon handicap, en fait, il s'appelle IMC, infirme moteur cérébral. Donc en fait, je suis né comme ça. Je suis né à 6 mois en fait. Et j'ai manqué d'oxygène à la naissance.
D'accord. Donc IMC, infirme moteur cérébral, c'est quelque chose qu'on entend parler de temps en temps. Oui. Mais qu'au final, on ne sait pas réellement ce que c'est. Est-ce que les causes peuvent être différentes? Vous nous dites que vous êtes né prématurément à 6 mois et que vous manquiez d'oxygène. Est-ce que principalement, l'IMC est provoqué par un manque d'oxygène à la naissance?
Pas forcément. Ça dépend vraiment du vécu du fœtus et de la maman. Ça peut se provoquer vraiment pendant l'accouchement ou un petit peu avant. Donc, c'est vraiment, l'IMC, c'est vraiment assez vaste, on va dire. C'est un handicap qui se ressemble beaucoup, mais en même temps qui est aussi différent.
Donc, voilà. Vous nous dites effectivement qu'il faut faire aussi attention à la maman, à sa santé durant sa période où elle est enceinte.
C'est ça.
Et IMC, au final, c'est le nom du diagnostic. Donc, en quelque part, on pourrait dire la maladie, la cause du handicap. Quelles sont les conséquences de l'IMC? Quelles sont ses principales caractéristiques auxquelles on peut la reconnaître?
Eh bien, l'IMC, soit il n'y a pas du tout de marche, ou soit elle est compliquée, la marche. Ça veut dire que on a un équilibre très précaire, donc on peut chuter régulièrement, et après ça peut éventuellement aussi toucher la parole.
Comme vous avez dit, l'IMC, c'est un large spectre, parce que chaque personne est différente devant l'IMC. Oui. Il y a des gens qui n'arrivent pas à marcher, d'autres qui marchent très bien, d'autres auxquels ça pourrait être un handicap invisible. On en a parlé ici sur Dear Valid People. N'hésitez pas à aller voir notre émission sur le handicap invisible. Et à côté de ça, il peut y avoir des personnes comme vous qui se déplacent avec un fauteuil roulant électrique.
Tout à fait.
Quelles sont les particularités, du déplacement en fauteuil électrique?
Alors, déjà, pour pouvoir utiliser son fauteuil électrique, il faut avoir une ville relativement accessible. Sinon, on est vite coincé. Et ça demande aussi... moi, je ne peux pas conduire. Donc, il faut que je prenne soit un véhicule aménagé, soit des transports en commun aménagés ou des taxis aménagés. Ici, ce qu'on appelle le GIHP.
Donc, ce que j'entends dans votre discours, c'est qu'il faut que ça soit aménagé
tout
le temps. Il me semble que pour venir jusqu'ici à la radio, vous avez dû prendre les transports en commun sur Montpellier.
Tout à fait.
Qu'en pensez-vous des transports en commun sur Montpellier?
On va dire que sur Montpellier, ils sont relativement simples à utiliser. Maintenant, sur tous les trajets, c'est pas forcément évident au premier abord. Parce que si on doit prendre les bus, il faut faire attention qu'il y ait bien la plateforme pour qu'on puisse monter à l'intérieur.
Plateforme qui, par ailleurs, peut être en panne.
Exactement.
Chauffeur qui peut avoir du mal à nous reconnaître et donc à savoir qu'il doit déployer la rampe.
Tout à fait.
Et les gens à l'intérieur du bus qui ont le malin plaisir, enfin la mauvaise habitude plutôt, je dirais, de se mettre exactement là où on doit se mettre, nous, personnes en fauteuil, puisque c'est un emplacement pensé pour nous rendre la vie plus facile et leur rendre la vie plus facile aussi, tant qu'à faire. Il faut que ça plaise à tout le monde. Vous avez dit que l'IMC, c'est un handicap de naissance.
Oui.
Quelle est la particularité d'avoir un handicap de naissance comparé à une personne qui a une maladie dégénérative ou une personne qui a un accident et qui se retrouve handicapée du jour au lendemain? Qu'est-ce qui fait que vous êtes vous, en quelque sorte?
Ben, tout simplement parce que j'ai toujours connu le handicap. Et en fait, j'apprends dès le plus jeune âge à vivre avec mon handicap. J'ai pas connu la marche ni l'autonomie complète, donc je suis obligé d'avancer avec mon handicap. Et donc, on peut dire que si on a une famille qui nous aide à avancer, on arrive plus facilement, entre guillemets, à s'intégrer dans la société.
Donc, vous avez dit que vous n'avez jamais réellement connu la marche. Donc, finalement, est-ce que ça peut nous manquer si on ne l'a jamais connu?
Non, pas forcément. Moi, ça ne me manque pas. C'est vrai que des fois, ça peut arriver qu'on y pense. Mais de toute façon, on n'a pas le choix, donc on fait avec. Et on avance petit à petit avec nos difficultés, mais on avance.
Donc Fred, il me semble qu'aujourd'hui vous avez 43 ans. Que pensez-vous de l'époque d'aujourd'hui concernant le handicap par rapport à il y a 20 ans, il y a 30 ans? Et quelle a été, vous, votre expérience pour les corps, pour chercher du travail, pour ce genre de choses que tout un chacun doit faire dans sa vie?
Alors, moi, je trouve que au jour d'aujourd'hui, on a bien évolué par rapport à il y a 30 ans. Bien sûr, il reste encore beaucoup de chemin à faire. Si on veut que la personne en situation de handicap soit totalement intégrée dans la société, mais au jour d'aujourd'hui, ça avance, mais il faut rester vigilant et continuer à se battre pour que la société moderne d'aujourd'hui continue à évoluer dans le bon sens. Et après, moi, concernant mon travail, le travail, ça m'a pas... par rapport à mon handicap, j'ai rencontré des difficultés, car comme je suis pas rapide pour élaborer des tâches, par rapport à mon handicap, on m'a dit que pour trouver réellement du travail, ça allait être très compliqué pour moi, car j'ai très peu de rendement, pardon.
Donc, encore une fois, on est face à une société qui a besoin d'être toujours plus rapide, d'être beaucoup plus, tout le temps plus efficace, de faire tout le temps plus de choses. Finalement, ça va à l'encontre du handicap. C'est paradoxal avec une personne en situation de handicap, quelle qu'elle soit.
C'est ça.
Et est-ce que vous pouvez nous parler de l'école? Parce qu'aujourd'hui, on nous en parle beaucoup, la politique de l'école inclusive. Est-ce qu'il y a 30 ans, il y avait cette politique-là? Comment? Quelles étaient les solutions à l'époque?
Alors, moi, pour mon cas, je suis né en 1975. Donc, en 1975, il n'y avait pas du tout ce que certains peuvent connaître aujourd'hui. Donc, moi, je n'ai pas connu le milieu ordinaire, ne serait-ce qu'en maternelle. Et à partir de 6-7 ans, j'ai été en école spécialisée, ce qu'on appelle en structure adaptée. Et donc là, j'ai pu suivre une scolarité jusqu'en sixième à peu près. Et après, on m'a proposé des ateliers éducatifs. Voilà. Ce qui m'a permis aussi de découvrir l'outil informatique. Et grâce à ça, j'ai pu continuer un petit peu à apprendre des choses, à découvrir des choses par moi-même. Car je suis quelqu'un d'assez curieux, donc ça m'a aidé aussi. Mais c'est vrai que j'ai pas une scolarité normale. Elle a été, pour ma part, un petit peu compliquée, mais ça m'a pas empêché plus tard de m'intégrer dans la société telle que je le suis aujourd'hui.
Oui, puisque finalement, l'informatique, c'est ce que vous faites aujourd'hui à l'APF France Handicap. Donc, ça vous a permis de trouver une voie, une passion. Vous vous sentez inclus dans cette société. On en parlera un petit peu plus tard après une pause musicale avec le groupe Chromatic. C'est le titre Kill for Love. Bonne écoute. Chers auditeurs, vous êtes de retour sur Dear Valid People après le titre Kill for Love du groupe Chromatix. Titre qui n'est pas anodin, nous en parlerons un petit peu plus tard. Juste avant la pause musicale, Fred nous disait qu'il se sentait inclus dans cette société via ce travail de bénévole, notamment à la PF France Handicap. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur cette inclusion? Comment vous pouvez dire que vous vous sentez plus inclus qu'il y a quelques temps, je suppose?
Ben en fait, tout simplement parce que je considère cette activité comme un travail à part entière. Et de voir que ce club informatique fonctionne maintenant depuis presque 30 ans, ça prouve que on fait ce qu'il faut avec mon collègue Christian, et de voir que les gens prennent plaisir à venir, et quand ils sont contents de leur petit texte ou de leur journée, qui nous disent merci, eh ben, moi, de mon côté, ça me conforte dans l'idée que je suis bien à ma place. Et donc, du coup, ça me permet de dire que je suis intégré dans la société, quoi.
Trouver voilà. Sa place, je pense que c'est le problème de tous aujourd'hui.
Oui.
Que pensez-vous du travail de bénévole aujourd'hui, Frédéric? Est-ce qu'il est réellement reconnu par tous? Est-ce que c'est considéré comme un vrai travail, entre guillemets?
Moi, je pense qu'à l'association où on est, je pense que ça va. On est reconnu à notre juste valeur parce que il y a des petits à côté, ils essayent de nous remercier un peu différemment, mais c'est vrai que je pense que on devrait mettre plus en avant ce travail de bénévole et essayer de travailler un peu plus sur le statut. Mais j'ai pas forcément de solution proprement dit.
Avant la pause, vous avez parlé de l'impact qu'a la famille aussi durant vos jeunes années et même encore aujourd'hui. Comme notre invité Maxime qui a pu nous dire, nous parler aussi de sa famille. Qu'avez-vous à dire, vous, par rapport au rôle de votre famille dans votre vie, dans votre quotidien aujourd'hui?
Tout simplement que si j'avais pas eu la famille que j'ai eu, je ne serais pas le Frédéric que tout le monde connaît aujourd'hui. Car ils m'ont toujours soutenu dans les bons moments comme dans les mauvais moments. Et c'est vrai que je l'ai toujours dit et je continue à le dire, l'entourage, c'est quelque chose de très important pour l'équilibre d'un enfant, qu'il soit handicapé ou non, mais encore plus quand il est en situation de handicap. Car si on est sans cesse en train de lui rabâcher qu'il marche pas, qu'il fera rien de sa vie, on en fait un futur dépressif.
Donc finalement, une personne en situation de handicap, c'est une personne comme tout le monde, c'est juste que tout élément, comme la famille, comme le travail, comme toute chose, prennent une importance plus grande.
Tout à fait. Tout à fait, car il faut apprendre à vivre avec le handicap, qu'il soit de naissance ou qu'il survienne lors d'un accident. Tout ça, il faut apprendre à vivre ce qui nous arrive sur le moment. Et si on n'est pas suffisamment soutenu, écouté et conseillé, eh ben c'est très 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 compliqué.
Est-ce que vous pensez qu'on est mieux conseillé, entre guillemets, avec un handicap de naissance plutôt qu'avec un handicap qui survient après un accident où notre entourage est aussi secoué que nous après un accident, alors qu'avec le handicap de naissance, ils évoluent en même temps que nous, et après 5, 10 ans, 15 ans, 20 ans, peut-être qu'ils sont mieux, entre guillemets, plus à même d'en discuter.
Oui, je le pense. Après, tout dépend des individus aussi, hein. Car c'est vrai que quand c'est un handicap de naissance, quand les parents apprennent cette nouvelle, c'est comme s'ils recevaient un coup de massue sur la tête. Car on n'est jamais prêt à avoir un enfant en situation de handicap. Donc là aussi, pour eux, c'est un apprentissage.
Je vous ai dit tout à l'heure que le titre Kill for Love n'était pas un choix anodin. En effet, avec Fred, nous nous connaissons, nous discutons régulièrement du handicap et des conséquences qu'il a au quotidien, notamment sur les relations. Fred, que pouvez-vous me dire sur l'impact du handicap sur la relation à l'autre?
Tout simplement que le handicap n'aide pas du tout à avoir une relation sentimentale, car ils sont très contents de faire connaissance avec nous, mais dès qu'on essaye de mettre en place quelque chose de sérieux, bizarrement, ils ont peur, ce que je peux comprendre, hein, le handicap par manque de connaissances fait peur. Mais c'est vrai que pour nous, en situation de handicap, c'est très compliqué à gérer. Ça amène souvent à des frustrations qu'on arrive plus ou moins à gérer.
La relation à l'autre est compliquée, je dirais même qu'elle est biaisée par le handicap, puisque les gens nous reconnaissent soit comme des héros parce que nous vivons une vie, que nous sommes en extérieur et que nous avons des projets, ou ils peuvent nous regarder avec pitié, oh le pauvre. Est-ce que vous sentez vous aussi ce regard, Fred, soit d'être un héros ou soit d'être misérable, mais au final, nous, ce qu'on attend, c'est être entre les deux?
Tout à fait, ça m'arrive très fréquemment. Comme vous disiez, soit on est héros ou soit on est loser. Et donc malheureusement, il faut composer avec ça aussi. Et c'est vrai que c'est relativement compliqué. Alors que nous, ce qu'on recherche, c'est avoir une relation tout à fait classique et la plus normale possible. Bien sûr, en prenant compte du handicap aussi.
Mais finalement, nous ne sommes pas en situation classique.
Non.
Peut-être faut-il accepter, je ne sais pas. En tous les cas, peut-être que le problème vient aussi des fameuses étiquettes qu'on aime bien mettre sur les fronts des gens, et notamment lorsqu'on nous met l'étiquette de personne en situation de handicap. On revient à un stade très primaire de personnes où finalement on n'est pas censé être en extérieur, on est censé rester à la maison et en sécurité.
C'est ça, et il faut continuer à se battre pour prouver le contraire, que malgré le handicap, on arrive à avoir une vie qui n'est pas classique, mais qui est notre vie, et c'est le plus important. Et après, il faut arriver, du moins c'est un souhait, ce serait d'arriver à fonder une famille. Mais ça encore, je pense que les mentalités, là aussi, ont besoin d'évoluer.
Est-ce qu'on peut vous souhaiter dans l'avenir fonder une famille ?
C'est ça.
C'est un débat qui est assez actuel d'avoir une famille en situation de handicap. Des personnes avec des handicaps lourds qui veulent être maman ou papa et qui cherchent des solutions et à qui on refuse ces solutions sous prétexte que le handicap nous mettrait en danger. Moi, est-ce que vous en avez entendu parler, Fred ?
Oui, tout à fait. Alors moi, pour mon cas, ce n'est pas une maladie. Donc je ne peux pas transmettre de maladie génétique à mon fils ou à ma fille. Mais c'est vrai que ce n'est pas anodin d'avoir des enfants quand on est en situation de handicap. Mais je pense qu'il y a des solutions, mais il faut le préparer en amont. Ça se fait pas comme ça en claquant des doigts, mais je me dis pourquoi on serait exempté de ça aussi.
Tout à fait, je pense que c'est un objectif que tout le monde a à un moment dans sa vie d'avoir un enfant. Après chacun son choix de vie. Exactement. Évidemment. Tout à l'heure, vous nous avez parlé de la relation sentimentale. Et qu'est-ce que vous pouvez nous dire, vous, d'après vos expériences, de ces personnes qui sont au final très heureuses de discuter avec vous et qui, au bout d'un moment, lorsque vous cherchez à passer à une étape au-dessus, tout de suite prennent peur et retirent
Ben, moi, je trouve que c'est dommage, car ils prennent pas le temps de nous connaître réellement. Parce qu'effectivement, le handicap, c'est quelque chose de lourd. Mais là aussi, il y a des solutions. Par exemple, si j'ai la chance d'être en couple, je ne demanderai pas à mon épouse qu'elle devienne mon auxiliaire de vie. Elle sera avant tout ma femme. Donc, après, pour tout ce qui est auxiliaire de vie, ça s'organise, ça se met en place. Et je pense que dès qu'on parle de problèmes de transfert, tout ça, tout de suite, ils font un amalgame. Ah, mais il va me demander. Alors que, pas forcément. C'est vrai que ça peut arriver si on est vraiment coincé. Mais dans l'absolu, c'est pas à l'épouse de faire le travail de l'auxiliaire de vie. L'épouse, elle a sa place.
Tout à fait, je suis totalement d'accord avec vous, Fred. L'auxiliaire de vie, c'est un autre débat dont nous reparlerons dans Dear Valid People dans un prochain épisode. Finalement, pour conclure, faire connaissance avec une personne en situation de handicap, c'est prendre en compte son handicap, mais aussi aller au-delà de son handicap en même temps, à la fois. Ce qui est un challenge, chers auditoristes, nous en sommes conscients, mais je pense que ça en vaut le coup. Merci Frédéric pour votre participation à Dear Valid People. Merci chers auditeurs de nous avoir écoutés et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.
Merci.
Bonne journée.
Au revoir.
Au revoir. Retrouvez Dear Valid People tous les jeudis à 12h10 et 18h10 sur les ondes de Radio FM+, la radio où la différence nous rassemble.